This is Radio France International.
De Paris, RFI,
$10.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio dans toute sa richesse et sa diversité. Ce soir, c'est avec Marcia Bechara de la rédaction au Brésilien.
Bonne nuit.
Les dégâts immenses provoqués par les feux de forêt au Brésil, vous nous en parlerez tout à l'heure. Ana Maria Ospina de la rédaction en espagnol.
Buenas noches.
Vous nous emmènerez au festival latino-américain de Biarritz. Et Vasile Damian de la rédaction roumaine.
Buonasera.
Pour nous parler des prochaines échéances électorales en Roumanie. Tout d'abord, ce qui fait la une de l'actualité, c'est la situation au Proche-Orient qui occupe une bonne partie des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient actuellement à New York. Marcia, comme tous les ans, depuis 1947, depuis la création des Nations Unies, le Brésil ouvre, et c'est une tradition, ce débat général annuel de l'Assemblée.
En effet, Philippe, cette année, le président brésilien a débuté son allocution en souhaitant tout particulièrement la bienvenue à la délégation de l'État de Palestine et à son président, Mahmoud Abbas. On l'écoute.
Dirige-moi en particulier la délégation palestine qui intègre pour la première fois
Il dit qu'il voudrait tout particulièrement s'adresser à la délégation palestinienne qui participe pour la première fois à cette séance de virtue bien, qui en tant que membre observateur et qui tenait également à saluer la présence du président Mahmoud Abbas. Lula aussi mentionnait une des plus graves crises humanitaires de l'histoire récente à Gaza et en Cisjordanie qui s'étend maintenant dangereusement au Liban, tout en citant ce qu'il appelle une punition collective pour l'ensemble du peuple palestinien. Les droits à la défense sont devenus les droits à la vengeance, ce qui empêche un accord de libération des otages et retarde les cessez-le-feu.
Vous parliez de Mahmoud Abbas, il a aussitôt remercié Lula pour son soutien à l'ONU.
Oui, il faut rappeler que la veille, lors de la cérémonie annuelle des remises des prix organisée par la Fondation Bill et Melinda Gates à New York, le chef d'État brésilien avait déjà critiqué l'ONU, suggérant, sans mâcher les mots, que l'entité n'avait pas le courage de créer un État palestinien, mais il avait eu la force de créer l'État d'Israël. Cette amitié transatlantique, il faut rappeler, avec la Palestine, ne date pas d'aujourd'hui, elle remonte même à 2010, quand Lula a officiellement reconnu l'État palestinien. Et il y a juste 15 ans, à l'occasion de la visite du président de l'autorité nationale palestinienne à Salvador de Bahia, Lula avait même suggéré la possibilité d'un futur accord de libre-échange entre le Mercosur et la Palestine, tout en tapant sur Israël. L'expansion des colonies en Cisjordanie doit s'y arrêter.
Ana Maria, vous avez écouté les interventions d'autres chefs d'État, notamment ceux d'Amérique latine, pour diffuser une partie dédiée à l'appel pour éviter l'embrasement au Moyen-Orient, comme par exemple le président de la Colombie.
Oui, Gustavo Petro, il a critiqué le premier ministre israélien, Netanyahou, à cause des attaques contre la bande de Gaza. Il a rappelé qu'il avait préconisé, avant même les premiers bombardements, la convocation d'une conférence internationale de paix pour la Palestine. Il s'est ému de la mort des 20 000 enfants sous les bombes. Et pour mentionner un deuxième exemple, le président argentin, Javier Milei, il a déclaré dans son discours que l'ONU avait pris une voie tragique. Milei dénonce qu'il a eu une hypocrisie de la ONU dans sa condamnation d'Israël.
Et qu'a dit le président du Chili ?
Gabriel Boric a appelé à se rebeller contre les doubles standards en matière des droits de l'homme et appelé à remettre en question à la fois le terrorisme du Hamas et la conduite génocidaire d'Israël, qu'il considère avec ses mots. Et le président du Guatemala, Bernardo Arevalo de León, a également évoqué les conflits en Ukraine, à Gaza et au Soudan, qui affectent la paix et la sécurité de tous.
Vassilie, vos confrères de RFI Romania à Bucarest ont fait, eux, lors des explosions des appareils de communication des membres du Hezbollah, une interview, celle d'un ancien ministre roumain des Affaires étrangères.
En effet, il s'agit d'Adrian Soriano, et selon lui, au Proche-Orient, c'est maintenant le temps des généraux, mais demain viendra forcément celui de la diplomatie. Notons par ailleurs que lors de cette session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président roumain Klaus Iohannis a répété que son pays, je le cite, soutient une résolution correcte du conflit dans la bande de Gaza et dans toute la région, sans donner toutefois plus de détails sur sa vision des choses.
Et tout cela alors que les bombardements se poursuivent tant dans la bande de Gaza que au sud de Liban, des frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth au cours de ces dernières heures. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Le Brésil est régulièrement ravagé par les flammes. Au moins 11 millions d'hectares ont été dévastés cette année, près de 10 fois la surface de l'Île-de-France. Avec environ 60% du territoire brésilien recouvert de fumée et d'incendies, y compris dans les principales métropoles, c'est la conséquence du pouvoir destructeur des différents lobbies anti-environnementaux, également de criminels. Marcia Bechara, de la rédaction brésilienne, selon les autorités, plus de 90% de ces incendies, donc notamment dans l'état de São Paulo, sont d'origine humaine.
Tout à fait, Philippe. Plus de 60% du territoire brésilien, soit 5 millions de kilomètres carrés, était désormais recouvert par la fumée ces derniers jours, une APPS visible depuis l'espace et ressentie au sol. La semaine dernière, en Amazonie, le taux de particules fines a dépassé 68 fois la limite recommandée par l'Organisation mondiale de la santé sur une année. De son côté, São Paulo, la plus grosse agglomération d'Amérique du Sud, est, depuis lundi 9 septembre, la détentrice du titre redoutable de la ville la plus polluée au monde, décernée par une société suisse qui observe la qualité de l'air dans plus de 100 grandes métropoles. Selon les autorités brésiliennes, la plupart des quelques 2000 incendies ont été allumés de manière coordonnée, ce qui a poussé la ministre de l'Environnement, Marina Silva, à dénoncer des actes de terrorisme climatique dans les pays. Les feux est strictement interdit au Brésil la manipulation de la terre par les feux. Márcio Astrini, secrétaire exécutif de l'Observatoire du climat, est plutôt d'accord avec la ministre. On l'écoute.
Si alguém pratica terrorismo ambiental no Brasil hoje, é por exemplo o Congresso Nacional. E a gente tem também esse terrorismo sendo praticado no chão da floresta. Então lá você tem há muitos anos no Brasil.
Il dit que si quelqu'un pratique le terrorisme environnemental au Brésil aujourd'hui, c'est bien le Congrès national, sans compter le terrorisme qui s'exerce sur les sols forestiers. Depuis de nombreuses années au Brésil, nous avons un réseau criminel qui s'est organisé, s'enrichit, a occupé des postes politiques même, y compris au Congrès, et qui a reçu l'appui d'un ancien président de la République. Il fait mention, bien sûr, à Jair Bolsonaro. Ces crimes qui sont devenus extrêmes ont également trouvé un climat extrême dans les pays en ce moment, dit-il.
Et les états les plus touchés, c'est le Mato Grosso, hein, c'est Amazonas, c'est Pará, ce sont des régions avec une forte présence de l'industrie agroalimentaire, l'agrobusiness, comme on dit.
Oui, il faut rappeler que des paysans, s'y passant parfois, dès l'autorisation de la police environnementale de l'IBAMA, l'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables, déclenchent une mise à feu volontaire pour éviter de plus graves incendies, une ancienne pratique indigène que la colonisation avait tenté d'éradiquer et qui est de nouveau reconnue par le gouvernement brésilien depuis le 31 juillet dernier. Mais sans un encadrement légal et en contrôle de l'IBAMA, cette pratique contribue malheureusement à empirer la situation.
L'IBAMA, c'est quoi ?
C'est l'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables.
Et de son côté, le président Lula a tenu la promesse de mettre fin à cette déforestation en Amazonie.
Oui, elle a diminué de 22% l'année dernière et déjà cette année, les alertes ont diminué de 45%. C'est quand même beaucoup. Les opérations sur le terrain, les amendes et la lutte contre la criminalité ont augmenté, tout comme les budgets consacrés à l'environnement, comme souligne Erika Berenguer, biologiste spécialisée dans la dégradation de la forêt amazonienne, interviewée par Lucia Mizio de la rédaction brésilienne. On l'écoute.
Caos do fogo que a gente está vivendo, essa crise do fogo, era para estar muito pior se o desmatamento não tivesse diminuído tanto nesses dois anos.
Ela diz que o caos dos incêndios que nós subissons no Brasil seria bem pior se a deforestação não tivesse autant diminuído ao cours de duas dernières années. Dans les cas contrários, il y aurait encore plus d'incêndios que se propageriam dans les paysages. Toutefois, ela diz, le gouvernement doit cesser de se concentrer uniquement sur la deforestação déforestation et commencer à s'intéresser peut-être à la dégradation des forêts. Et en fait, elle regrette que des mesures préventives n'aient pas été prises, car on savait depuis l'année dernière que les phénomènes El Niño entraîneraient une sécheresse dans une grande partie du Brésil.
Oui, d'autant que dans 244 villes du Brésil, toutes régions confondues, le taux d'humidité enregistré est égal ou inférieur à celui du Sahara, c'est bien ça?
Exactement, et car dans 244 villes brésiliennes, toutes régions confondues, il y a ces taux-là, et c'est loin d'être fini. Les prévisions officielles suggèrent une sécheresse record au Brésil jusqu'à la première moitié de 2025. Les saisons des pluies déjà en retard ne devraient pas débuter avant les mois d'octobre et s'annoncent déjà insuffisantes pour sauver un Brésil transformé maintenant désormais en un gigantesque brasier.
Marcia Bechara de la rédaction en brésilien de RFI. La Roumanie est en pleine campagne électorale. En effet, vont avoir lieu des élections législatives et présidentielles. L'actuel chef de l'État, Klaus Iohannis, en est à son deuxième et dernier mandat. Il ne pourra donc pas se représenter, mais que va-t-il faire? Vassilie Damian, chef du service en roumain de RFI, faites-nous d'abord une photographie politique du moment.
Eh bien Philippe, à Bucarest, le gouvernement est formé par une coalition droite-gauche. Eh oui, les Roumains ont su l'affaire, qui réunit donc les sociodémocrates et les libéraux. Des rangs de ces derniers est issu le président Klaus Iohannis. Au pouvoir depuis 10 ans, il ne peut plus se représenter aux élections de novembre et décembre, pas pour un nouveau mandat de président en tout cas. Mais alors, pourquoi pas de sénateur? C'est la question que se sont posés les libéraux. Leur chef de file au Sénat a déposé en ce sens un projet de loi, un amendement plutôt, pour modifier la loi actuelle.
Et alors cette modification, elle consiste en quoi?
Eh bien, elle prévoit qu'un président en exercice, dont les 3 derniers mois de son mandat, pourrait se représenter comme candidat indépendant sur la liste d'un parti. Les nuances ont toute leur importance dans cette affaire. En effet, rien ne dit, ni même la Constitution, n'interdit au président d'être candidat aux législatives, mais il ne peut être membre d'un parti. D'où l'astuce du projet de loi qui parle donc d'une candidature indépendante sur la liste d'un parti, en espèce le parti donc libéral. Enfin, précisons que le mandat présidentiel se termine après les législatives qui ont lieu en un seul tour, le 1er décembre, entre les 2 tours des présidentielles. Cela aurait donc été beaucoup plus simple si le président souhaitait rester en effet en politique, de démissionner avant son terme pour être ensuite candidat officiel des libéraux au Sénat. Cela aurait évité éventuellement la modification de la loi pour une seule personne. Devant le tollé provoqué par cette initiative des libéraux, Klaus Iohannis, présent à New York ces jours-ci, a tenu à mettre les choses au point mercredi.
Pot să vă spun și acum, fiindcă pentru mine este foarte clar.
Que dit le chef de l'État?
En gros, le président roumain dit qu'il n'a jamais souhaité une loi pour lui tout seul. Il promet d'ailleurs, alors que ce n'est pas dans ses compétences, de faire tout pour que cette loi n'existe pas. Revenu ce matin des États-Unis, il a réitéré son refus d'être candidat. Il n'empêche que les libéraux sont dans l'embarras. L'attaque étant la meilleure défense, les responsables du parti ont estimé que ce refus présidentiel est la preuve qu'il n'y a pas eu de connivence avec le chef de l'État. Cela démontre que ce n'est pas lui qui a demandé au parti cette modification de la loi, dit Daniel Fenecchio. Écoutons ce que disait donc hier le chef de file des sénateurs libéraux, interrogé par notre collègue de Bucarest, Cosmin Rușcior.
Eu aș continua procedura parlamentară cu riscul să fie respinsă, pentru că în momentul în care lupți pentru un principiu și pentru un drept, nu pentru un om, est normal de se finaliser ce démarche.
Aidez-nous à comprendre ce sénateur.
Le sénateur libéral dit que lui, personnellement, souhaite continuer la démarche parlementaire, à savoir déposer un amendement en ce sens, avec le risque, bien sûr, qu'il soit refusé par le bureau électoral central. On est dans une campagne électorale et garder sur le devant de la scène ce problème peut représenter des points électoraux pour le parti.
Alors, le nom du président roumain, son avenir politique, a fait ces derniers mois l'objet de beaucoup d'hypothèses avant d'arriver à celle que vous évoquiez, celle de sénateur.
En effet, Philippe, il a voulu d'abord prendre la tête de l'OTAN. Les alliés, ou en tout cas la plupart et les plus influents d'entre eux, lui préférant le néerlandais Mark Rutte, le roumain a dû s'effacer au mois de juin. Un mois plus tard, le nom de Iohannis a commencé à être cité comme possible aux représentants de la politique extérieure de l'Union européenne. Ensuite, on a eu l'hypothèse futur commissaire européen dans la nouvelle équipe d'Ursula von der Leyen. Là non plus, cela n'a pas marché. Restait donc la scène politique locale.
Ouais, sauf qu'en général, quand on a été président, on ne revient pas sur une position représentative inférieure, on va dire.
Oui, mais en Roumanie, il y a eu des exceptions à cette règle non écrite. Par exemple, l'ancien président Traian Băsescu a été, après son passage à la présidence, d'abord sénateur et ensuite député européen. Les jours et les semaines à venir nous diront si vraiment Klaus Iohannis ne va pas être candidat au sénatorial, comme il le dit maintenant, ou si finalement il se résoudra à suivre les conseils de ses amis libéraux. En tout cas, les listes définitives devront être finalisées au plus tard mi-octobre.
Tout cela est donc bien évidemment suivi par la rédaction roumaine de RFI et nos confrères de RFI Romania à Bucarest. Chaque année, Biarritz en France devient latino-américaine avec le Festival du film et de la culture latino-américaine. Une équipe de journalistes de la rédaction en espagnol est donc allée au Pays Basque français, les chanceux. Anna Maria Ospina, pourquoi ce festival est-il si important pour vos auditeurs ?
Parce que c'est la crème de la crème. Les auditeurs peuvent écouter des producteurs, des réalisateurs, des acteurs. Et c'est pour ça que mes collègues qui ont de la chance de partir là-bas, Maria Carolina Pigna et Melissa Barra, sont à cette station balnéaire pour interviewer les personnages. Et ils font partie de l'émission culturelle aussi diffusée sur France 24 en espagnol appelée Carrousel de la Santé.
Et alors, qui a été interviewé ?
Avant de vous répondre, écoutez une bande d'annonces et dites-moi si vous la reconnaissez.
Explorer est touché. Explorer, à vous. Explorer.
N'est-ce pas Gravity, ce film dans lequel Sandra Bullock et George Clooney sont dans l'espace?
Et oui, c'est la version française et on ne va pas spoiler si jamais parmi nous, il y a des personnes qui ne l'ont pas encore vu. Mais d'après l'expert, Gravity est le premier film de science-fiction qui montre l'espace de manière réaliste et c'est l'œuvre d'un réalisateur mexicain, Alfonso Cuarón, qui a été invité au Festival de Biarritz pour recevoir l'Abrazo d'Honor, prix destiné à récompenser un artiste pour l'ensemble d'une carrière d'exception ayant fait briller la culture latino-américaine à travers le monde. On écoute Cuarón sur ce prix au micro de Maria Carolina Pigna.
Le premier festival européen auquel j'ai été invité. En ese festival, que fue en 1991, me traía mi primera película.
Ce festival lui rappelle les souvenirs, si je comprends bien.
Oui, parce que c'est le premier festival européen où il était invité en 1991. Il a diffusé son premier film et ce fut comme un point de départ, non seulement pour sa carrière, aussi pour sa vie. Et on le rappelle aussi qu'il a écrit Roma, il a dirigé Roma, qui est un chef d'œuvre de 2018.
Il a également parlé aux journalistes de RFI de ses projets en matière de cinéma, ses autres projets.
Il a un projet intéressant, c'est une série, c'est sa première série qu'il écrit, elle s'appelle Disclaimer.
The world needs to know who Catherine Ravenscroft really is.
Un film en 7 parties qui sortira en octobre sur Apple TV et Cuarón, il a parlé sur ça.
Bueno, yo no sé hacer televisión. Y entonces yo mi acercamiento fue el de hacer una película larga. Yo hice un formato de cine que es una.
Il accepte de ne pas savoir comment faire de la télé. Et donc il a décidé de faire un long métrage, c'est-à-dire un film d'une durée d'environ 5h30. Et les découper en chapitres.
Ben voilà, ça fait une série finalement. C'est la 33e édition de ce festival Biarritz Amérique Latine. Anna Maria, quel autre sujet a été abordé ?
Il a eu aussi la partie musicale ou des films dans un autre pays. Je veux parler de Querido Tropico. C'est un film panaméen.
Qui est cette chica que nunca l'ai vista en tu casa? Que está allá?
C'est l'histoire d'une femme d'affaires riche et colérique qui commence à souffrir de démence sénile. Sa famille décide alors d'engager une immigrée colombienne qui cache un secret. On ne sait pas ce qu'il cache, mais il a un rejet initial entre les femmes et après, elles deviennent super, super copines. On va écouter Ana Endara, c'est la réalisatrice du film.
Hay muchas cosas que no se pueden decir con palabras. Hay muchas alegrías que no se pueden describir.
¿Qué explique-t-elle?
Elle explique qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire avec les mots. La joie, la douleur. Et donc, ces deux actrices, ils ont réussi, et parmi ces, entre les personnages qui sont joués, à avoir ces chances de regard.
À Biarritz, il y a aussi l'Argentine qui tient sa place.
Oui, elles sont invitées parce que son cinéma est apparemment il est très riche et on va écouter une personne qui va nous expliquer pourquoi ces festivals les invités. Parce qu'il parle de beaucoup d'aspects de la culture, des luttes féminines, de l'héritage de la dictature propre de l'Argentine. Il est Jean-Christophe Bergeon, c'est le délégué général du festival.
Los cineastas argentinos no temen hacer reales comedias.
Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Que les cinéastes argentins n'ont pas peur de faire des vraies comédies, des drames, des vraies bandes d'annonces. Ils racontent la vie, ils vont tourner de plusieurs formats et cela démontre leur variété cinématographique, comme je vous énonçais, la richesse.
Et tout cela donc au Festival Dieu Biarritz dans le sud-ouest de la France, au Pays Basque. C'était Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale.